Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication qui seront au nombre de deux. Tout d'abord, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 des versets 1 à 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection en le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, un deuxième texte dans l'Épître aux Philippiens, Philippiens au chapitre 2, des versets 5 à 11. Ayant-vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Donc aujourd'hui, on va se pencher par la grâce de Dieu sur la deuxième épître de Pierre. Ce sera les versets 3 à 11. J'ai demandé à ce que le tout soit relu parce que ça nous remet peut-être aussi en tête ce qu'on avait entendu lors de la première prédication. Mais concrètement, ce sera les versets 3 à 11 de cette deuxième épître de Pierre dans le premier chapitre. Donc lors de la première prédication, qui avait été une introduction à cette lettre, nous avions vu qu'elle a été écrite par Pierre, qui est l'un des 12 qui avait été choisi par Dieu, par Jésus. À propos de Pierre, nous avions vu également qu'il était apôtre de Jésus-Christ. Les apôtres ont été choisis par Jésus pour poser les fondements de l'Église, fondements dont d'ailleurs Jésus est la pierre d'angle. Et c'est important, car cela souligne que la lettre que nous étudions n'est pas une lettre humaine, mais qu'elle a été écrite sous l'autorité de Christ. Alors, c'est naturellement le cas de tous les écrits qui se trouvent dans la Bible, mais si je souligne ça aujourd'hui, maintenant, c'est simplement parce que je vais souvent faire référence à Pierre et j'aimerais qu'on soit bien au clair que oui, Dieu a agi au travers d'un auteur humain, mais ça reste la parole de Dieu. Et nous avions aussi vu que cette lettre s'adressait aux croyants, à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, écrivait Pierre. Lui était apôtre, d'ailleurs, selon beaucoup, l'un des personnages les plus importants dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament compris. Et nous ne sommes pas apôtres, mais il souligne que la foi que Dieu a déposée dans nos cœurs a le même prix et de la même nature que celle que les apôtres ont eux-mêmes reçue. Et tous, nous l'avons reçue en raison de la justice de Jésus-Christ qui nous rend justes devant Dieu. Nous avions vu également qu'au moment de rédiger cette lettre, Pierre savait qu'il allait mourir prochainement. Pierre était préoccupé par la santé spirituelle des croyants et par leur persévérance jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle il a écrit cet épître, en fait. Il voulait que les chrétiens puissent se souvenir en tout temps des enseignements essentiels pour une vie chrétienne en bonne santé spirituelle. À la suite d'Alfred Kuhn, pour résumer simplement les trois chapitres de cette lettre, on pourrait dire que dans le chapitre 1, Pierre montre aux croyants où se trouvent les bons pâturages qui stimuleront leur croissance. Dans le chapitre 2, les dangers qui les guettent. Et dans le chapitre 3, vers quel avenir nous nous dirigeons et comment attendre le retour du Seigneur. Donc cette prédication contiendra trois thèmes principaux. Le salut donné par grâce et dans lequel il ne manque rien. La réponse que ce salut doit amener chez le croyant, et un troisième point qui contiendra une mise en garde concernant l'absence de cette réponse et les fruits que cette réponse va générer dans notre vie. Donc un salut entièrement par grâce et dans lequel il ne manque rien, c'est les versets 3 à 4. La réponse qu'il doit susciter chez nous, les versets 5 à 7. Une mise en garde contre l'absence de cette réponse, le verset 9. Et les fruits, les récompenses, si vous voulez, de cette réponse, le verset 8 ainsi que les versets 10 à 11. Voilà pour la structure. Donc le premier point, un salut donné par grâce et dans lequel il ne manque rien. Alors peut-être une petite parenthèse avant de commencer. Selon la traduction que vous avez, vous verrez qu'il y a des choix de traduction qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc moi j'ai choisi de me reposer sur la traduction qu'on utilise couramment ici, qui est la Bible dite à la Colombe, la Louis II 1978, enfin révisée 1978, aussi parce que c'est elle qui exprime à mon sens avec le plus de richesse les notions qui se retrouvent dans ce passage. Donc les versets 3 à 4, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Ici, Pierre va débuter par le commencement de toute vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la puissance divine qui se met en action dans la vie d'une personne. Elle vient donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce passage contient donc deux notions, deux réalités, la vie, la piété. En d'autres termes, Dieu nous fait naître de nouveau. De mort spirituelle que nous étions, Dieu nous ramène à la vie. Il ne s'agit pas d'un changement physique, mais d'une réalité spirituelle. Désormais, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La Bible utilise en divers endroits l'image de la vie pour les personnes qui sont sauvées et l'image de la mort pour les personnes qui sont perdues. Par exemple, Jean 5, 24 nous dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Cette vie que Dieu nous donne contient donc le salut, le fait d'être réconcilié avec Dieu, de vivre l'éternité à venir auprès de Dieu. Dieu veille à notre persévérance en nous donnant tout ce qu'il faut. En fait, Jésus disait à la Samaritaine au bord du puits que l'eau qu'il nous donne à boire est une source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. Et je pense que c'est une bonne illustration pour cette vie qu'on possède déjà ici-bas et qui va jaillir jusque dans l'éternité. Maintenant, concernant le deuxième élément, là c'était la vie, maintenant la piété. Lorsque Dieu nous a fait naître de nouveau, il nous rachète pour que nous lui appartenions. Ce n'est pas pour nous laisser errer dans une vie sans but, remplie de péchés. Non, il nous donne aussi tout ce qui est nécessaire pour mener une vie de piété. Mais en fait, c'est quoi la piété? Est-ce que quelqu'un aurait une définition comme ça qui lui viendrait? Croire en Dieu? Ça en fait certainement partie, ouais. Si on veut une définition complète qui résume bien, je pense, cette notion, c'est une vénération faite de respect, de crainte, de loyauté et d'obéissance envers Dieu. Et ça implique effectivement de commencer par croire en Dieu. Il s'agit donc d'une vie qui est menée dans une relation vivante avec Dieu, empreinte d'admiration, d'obéissance et de respect. Ainsi, au moment de nous racheter, Dieu nous ramène à la vraie vie, celle qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Bien que nous soyons encore dans un corps de péché influencé par notre chair, par ce monde aussi qui est sous l'influence de Satan, Dieu débute en nous un processus surnaturel qu'on appelle la sanctification et qui consiste à nous amener toujours plus à la ressemblance de Christ. Désormais, notre salut est assuré parce que Dieu a pourvu à toute chose et y pourvoira jusqu'à la fin. Prenons deux images par rapport au fait qu'on a déjà tout reçu. Celle d'un enfant qui est conçu dans le ventre de sa maman, premièrement. Au commencement, il mesure moins de quelques millimètres. Et pourtant, il contient déjà tout ce qui est nécessaire pour devenir un adulte. Il n'y aura rien besoin d'ajouter en cours de route. Ou une graine d'arbre. Elle est très petite en comparaison de l'arbre. Et pourtant, elle contient déjà tout ce qui est nécessaire pour devenir un arbre. Pas besoin de rajouter une branche ou un morceau de tronc à un moment donné. L'arbre va croître et devenir ce qu'il contenait déjà. De même, lors de notre nouvelle naissance, nous portons déjà tout ce qui est nécessaire à la vie éternelle et à une vie de piété. Alors, peut-être qu'actuellement, on a plutôt l'impression de ressembler à une jeune pousse, voire à une graine en train de germer. Mais un jour, lorsque nous serons auprès du Seigneur, nous serons cet arbre pleinement développé et arrivé à maturité. Nous serons entièrement saints. Que cela puisse influencer d'ailleurs notre vie de prière. Ne prions pas comme s'il nous manquait quelque chose, mais prions plutôt que Dieu nous apprenne à vivre dans cette réalité que nous avons tout reçu en lui et à tout aller puiser en lui. Donc si nous sommes chrétiens, c'est que la puissance divine a agi en nous. C'était le début, le commencement. Mais peut-être que quelqu'un se demande comment recevoir ces choses, comment vivre le fait que Dieu vienne agir en nous par sa puissance. Le texte nous répond que c'est par la connaissance de quelqu'un. Quelqu'un qui nous a appelés, comme le dit le verset 3, par sa propre gloire et par sa vertu. Alors avant d'aller plus loin sur la notion de la gloire et de la vertu, permettez-moi de faire un petit détour. J'aimerais d'abord vous montrer, avec le verset 4, qu'il nous permet de clairement savoir que cette personne, c'est Jésus-Christ. Le verset 4 dit « Par elle, donc par sa propre gloire et par sa vertu, nous avons reçu les promesses les plus précieuses et les plus grandes. » Et 2 Corinthiens 1:20 nous dit « Par qui nous recevons les promesses de Dieu ?» Toutes les promesses de Dieu sont ce « oui » en lui. C'est-à-dire dans le contexte, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est cette personne que Dieu nous a fait connaître et par qui nous recevons toutes ses promesses. Mais pourquoi ces promesses se trouvent-elles auprès de Christ? Parce qu'en tant qu'être spirituellement mort et sous l'influence du péché, nous sommes coupables devant un Dieu 3 fois saint et dont la justice est infinie. Ce Dieu juste et saint ne peut pas laisser impuni le pécheur et nous pardonner juste comme ça par amour. Le seul moyen serait un substitut, quelqu'un qui pourrait nous aimer suffisamment pour prendre notre place et qui serait suffisamment puissant pour pouvoir porter le poids de la condamnation éternelle de tous ceux qui viendraient trouver refuge en lui. C'est ce qui nous fait revenir en fait maintenant à la gloire et à la vertu de Christ. C'est pour cela que nous avons lu Philippiens 2, 5 à 11 en introduction. Jésus, dont la condition est celle de Dieu, avec toute la gloire que cela comprend, s'est dépouillé de tous ses droits divins pour prendre la condition d'un esclave, prenant un corps semblable au nôtre, à tel point qu'il a été reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix comme un coupable, comme un pécheur. Et c'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Puis il a été mis au tombeau, car il est mort sous la colère de son Père, parce qu'il recevait le salaire de nos péchés. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, n'ayant jamais commis de péché lui-même, la mort ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité, et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et un jour, tout genou fléchira devant lui, dans les cieux et sur la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors dites-moi, qu'y a-t-il de plus glorieux et de plus vertueux que cette œuvre accomplie par Christ? Donc pour quelqu'un, j'en reviens à la question de base, qui se demanderait comment recevoir le salut, cette nouvelle naissance, c'est par la connaissance de Jésus-Christ, en reconnaissant et en confessant à Jésus que nous sommes pécheurs et en croyant, en ayant la foi qu'il est le Sauveur donné pour nous pécheurs et qu'il est Dieu lui-même. Pas besoin de savoir faire, pardon, une belle prière. Le PAG de Luc 18, 13 s'est écrié à Dieu, « Ô Dieu, sois apaisé avec moi, envers moi, pécheur !» Et il s'en est retourné justifié, nous dit Jésus. De plus, la bonne nouvelle que Pierre souligne à deux reprises dans les versets 3 et 4, c'est que le salut est un cadeau, un don. À deux reprises, il va dire « donner ». Cela passe par le fait de reconnaître que nous sommes coupables devant Dieu, que sa colère est sur nous, et de croire qu'il est un Dieu miséricordieux qui pardonne au coupable qui se repent de son péché et place sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et dans son œuvre à la croix. Nous ne pouvons rien faire pour le mériter, nous pouvons seulement le demander comme une grâce. Reprenons maintenant le verset 4. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ces promesses, c'est en fait les promesses de vie abondante et éternelle. Ces promesses nous permettent de devenir enfants de Dieu. Dieu nous fait désormais participer à sa nature divine. Or naturellement, Pierre n'a pas en tête ici que nous sommes devenus des petits dieux, comme le Nouvel Âge aimerait nous le faire croire. Notre participation à la nature divine reflète ce qui a été dit au verset 3, la vie et la piété. Dieu partage avec nous son éternité dans une vie abondante et il partage avec nous son caractère. Il nous amène à toujours plus ressembler à son Fils Jésus-Christ. Comme le dit Romains 8, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la traduction Semeur a fait le choix de traduire par « rendre conforme au caractère divin ». Donc en résumé de ce premier point, la divine puissance de Dieu vient œuvrer en nous et nous sauve à travers l'œuvre de salut de Jésus-Christ. En nous sauvant, il nous rend participants de sa nature divine, partageant avec nous sa vie éternelle. Cette vie, nous la possédons déjà ici-bas et elle jaillira jusque dans l'éternité. Un peu comme si nous étions sur un bateau, dans des eaux souterraines qui nous entraînent vers la surface et qui soudain vont jaillir à la lumière du soleil. En partageant sa nature divine avec nous, Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire à une vie de piété sur cette terre. Il nous amène à grandir à sa ressemblance et à refléter toujours mieux son caractère. En trouvant refuge en Jésus-Christ, il nous fait échapper à la corruption, c'est-à-dire à la décomposition et à la pourriture qui a cours dans ce monde. Et on en arrive au deuxième point, la réponse que suscite ce salut en nous. C'est les versets 5 à 7. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété, la fraternité ou l'amour fraternel, et à la fraternité, l'amour. » En arrivant au deuxième point, j'aimerais commencer par introduire un élément en vous partageant un vécu personnel. Pendant des années, ou plutôt les premières années de ma foi, je passais régulièrement de l'antinomisme au légalisme, puis de nouveau à l'antinomisme, puis de nouveau au légalisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces termes ? En gros, l'antinomisme, c'est le fait de rejeter la loi, de dire « j'ai plus rien à faire avec la loi, je suis libre de vivre comme je veux », et le légalisme, c'est d'apporter une importance trop grande à la loi. Et en fait, ça a été une problématique pour moi jusqu'à ce que je rencontre pour la première fois Timothée, notre pasteur, et puis qui m'explique les indicatifs et les impératifs. Donc en fait, les indicatifs dans la Bible nous indiquent une réalité à laquelle nous ne pouvons rien changer. Par exemple, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela ne vient pas de vous, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Voici un indicatif. Dieu a fait cette chose, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, on ne peut rien y changer, c'est une indication. Les impératifs, par contre, nous disent ce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre. Par exemple, Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ça, c'est un impératif, quelque chose qu'on a à faire. Et un principe essentiel, c'est que les impératifs doivent toujours, toujours et toujours reposer sur les indicatifs. Nous faisons quelque chose en raison de ce que Dieu a fait en premier pour nous. Voyez, vous êtes une nouvelle créature, alors ne marchez plus selon votre ancienne nature, ne marchez plus comme les païens. C'est parce que nous sommes une nouvelle créature que nous devons marcher différemment. Voici une illustration reprise d'une prédication de Timothée il y a bien des années, qui j'espère nous aidera à comprendre. C'est l'histoire de deux frères. Le premier, qui est le grand frère, a toujours mené une vie droite, honnête, fait face à ses responsabilités et travaillé pour gagner son pain. L'autre, le petit frère, a toujours été trompeur, buveur, cherchant les profits faciles et tant pis pour ceux qui sont trompés. Vous pouviez les reconnaître au premier coup d'œil. Le premier, le grand frère, portait des vêtements propres, soignés, comme toute sa personne. Le deuxième était habillé de vêtements crasseux, ne prenait aucun soin de lui. Malgré cela, ils continuaient à vivre ensemble dans la même maison. Une nuit, le premier frère entend des cris désespérés à la porte. Il va ouvrir et trouve son frère, qui était dans un état encore plus misérable que d'habitude. Il a ses vêtements en haillons et est couvert de sang. Le petit frère s'écrie « C'est horrible, je suis responsable d'un meurtre et maintenant la police est à mes trousses. Je vais être condamné à mort. Aide-moi, sauve-moi !» Ému jusque dans ses entrailles par la détresse de son frère, le grand frère n'hésite pas un instant et dit au petit frère « Laisse là tes vêtements et va te coucher. » Une fois qu'il est hors de vue, le grand frère retire ses vêtements et enfile ceux de son frère et va attendre devant la maison. Lorsque la police arrive, il dit « C'est moi, emmenez-moi pour être jugé. » Le lendemain matin, le grand frère est jugé par le tribunal. Son aspect ne fait aucun doute, il est bien le coupable et il est condamné à mort. La sentence est appliquée immédiatement sur la place publique. Au réveil du petit frère, il est trop tard. Tout a été accompli. Il trouve une lettre de son grand frère l'informant de ce qu'il a fait. « J'ai donné ma vie pour toi, » lui dit-il. « Désormais, laisse tes vieux haillons et change ta vie. Fais tous tes efforts pour mener la même vie que moi. » Désespéré, il court au tribunal dire que c'est lui le coupable qui doit être condamné. Mais la sentence a déjà été appliquée. Le prix a été payé. Le juge lui répond que la peine ne sera pas appliquée une deuxième fois. À votre avis, le frère va-t-il changer sa vie ? Mais surtout, s'il change sa vie, est-ce qu'il va le faire pour que son grand frère l'aime et le sauve des conséquences de sa mauvaise vie ? Ou alors est-ce qu'il va le faire parce que son grand frère lui a prouvé son amour et qu'il l'a sauvé des conséquences de sa mauvaise vie ? Alors pourquoi je vous parle de ces choses ? Parce que le passage que nous étudions est un des exemples les plus forts de ce principe dans le Nouveau Testament. Dans les versets 3 à 4, Pierre pose les indicatifs, ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce qu'on vient de voir auparavant. Et à présent, dans les versets 5 à 7, Pierre en arrive aux impératifs, à ce que nous sommes appelés à faire en réponse à ce salut. En effet, le salut est un don gratuit. Nous ne pouvons pas l'acheter. Mais ce passage nous apprend qu'il doit susciter en nous une réponse, un changement de vie pour lequel nous sommes appelés à faire tous nos efforts. Mais Pierre ne dit pas « Maintenant, faites tous vos efforts », mais plutôt « À cause de cela même, faites tous vos efforts, à cause de ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait. » Vous voyez, c'est en raison de tout ce que Dieu a fait pour nous que nous sommes appelés à faire tous nos efforts et jamais à faire tous nos efforts en vue d'obtenir le salut. Jamais. Nous obtenons le salut par grâce et ensuite nous rentrons dans une démarche d'obéissance. Dieu a donc tout accompli en donnant sa vie à notre place et il nous appelle maintenant à faire tous nos efforts pour mener une vie qui soit toujours plus à sa ressemblance. Nous apprenons là que grandir à l'image de Dieu n'est pas quelque chose de magique ou d'automatique, qu'il y aurait juste besoin d'attendre comme ça sur un canapé et ça nous tombe dessus. Nous avons à faire tous nos efforts pour mener une vie qui soit toujours plus à la ressemblance de celle de Christ. Alors bon, je sais pas vous, mais moi, dans un premier temps, cette liste de vertus, ça m'a quand même paru quelque chose d'assez important quand même. Un peu tout un programme. La vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité, donc l'amitié fraternelle, l'amour. Mais ne faisons pas l'erreur de penser que c'est en nous et par nos propres forces seules que nous pourrons progresser dans ces choses. Mais rappelons-nous plutôt l'affirmation de Colossiens 2:10. Et vous avez tout pleinement en... Amen. Et vous avez tout pleinement en Christ. C'est en lui qu'on doit aller chercher ces choses. Bien que nous soyons appelés à faire tous nos efforts, il faut regarder à Christ en qui nous avons tout pleinement. Nous allons parcourir ces qualités et j'aimerais vous inviter à réfléchir à deux choses que j'ai pas le temps de développer maintenant dans cette prédication. La première, comment chacune de ces vertus, de ces qualités, se retrouve à la perfection en Christ. Et deuxièmement, comment vous, dans votre propre vie, ce que vous pourrez mettre en place pour chercher à multiplier ces choses dans vos vies. J'aimerais même nous inviter, la semaine prochaine, à reprendre ces vertus, à les méditer, comment elles se trouvent en Christ encore, et comment on peut chercher à les développer dans notre vie. Donc la première de ces qualités, c'est la vertu. La vertu, c'est en fait l'excellence dans le domaine moral. Vous pourrez aussi être rendu par bonté, courage, excellence. C'est ce qui, par exemple, fait d'une personne un bon citoyen, habile dans l'art de vivre bien, amical, courageux. La connaissance. Il s'agit ici premièrement de la connaissance de la parole de Dieu, qui vient par la lecture assidue et la méditation de la Bible. Cette connaissance est ensuite appelée à être mise en pratique dans notre vie. Elle participera également à nous faire mener une vie avec discernement. La maîtrise de soi. Elle comprend le fait de maîtriser notre chair et ses mauvais désirs. Je précise quand même que pour les gens qui sont dans la souffrance, ce n'est pas le sens de s'endurcir face à la souffrance et de faire comme si elle n'existait pas. Ce n'est pas le sens de la maîtrise de soi telle qu'elle est pensée ici. La maîtrise de soi prend sa source dans notre foi et tend vers l'amour. Elle tend vers la soumission à Dieu en nous rappelant que son esprit vit en nous. La persévérance, elle peut être traduite par la patience. Elle contient le sens de persévérer, même au sein des épreuves. Elle tend vers l'espérance et regarde en avant, vers les jours meilleurs. Elle regarde vers l'éternité auprès de Christ. La piété, elle est marquée par une vie de communion avec Dieu, dans le respect, la loyauté et l'obéissance. Elle contient donc l'amour pour Dieu, mais également celui pour les êtres humains, notamment pour les plus vulnérables, les plus démunis. La fraternité, ou qu'on pourrait traduire aussi l'amitié fraternelle ou encore l'amour fraternel, c'est l'affection familiale que devrait refléter l'Église, qui se manifeste par le souci, la présence et le réconfort mutuel. Et pour finir, l'amour. Il s'agit ici de l'amour agapé, cet amour qui se sacrifie pour le bien de l'autre, sans rien attendre en retour. Il devrait aussi se voir dans nos relations fraternelles, puisque c'est d'un tel amour que nous sommes aimés et que c'est d'un tel amour que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. En résumé de ce deuxième point, faisons tous nos efforts pour développer ces qualités dans notre vie en allant puiser dans le trésor sans fin qu'est Jésus-Christ, qui possède à la perfection chacune de ces qualités et qui s'engage à œuvrer dans nos vies pour nous amener à toujours mieux refléter son caractère. Rappelons-nous cette phrase d'Augustin. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et on en arrive au troisième point, qui contient donc la mise en garde contre l'absence de ces fruits dans nos vies, et puis les fruits ou les récompenses qui vont découler de ces fruits. Commençons par la mise en garde, c'est le verset 9. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, donc qui ne possède pas toutes ces qualités qu'on vient de voir. Celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Familièrement, on pourrait dire que c'est une personne qui voit pas plus loin que le bout de son nez. En quelque sorte, c'est une personne qui a oublié que les chrétiens ne sont que voyageurs ici-bas, que notre patrie ne se trouve pas ici, mais dans les cieux, aux côtés de Christ, pour l'éternité. En fait, je dis dans les cieux, pour l'éternité, c'est pas tout à fait juste. Si on meurt avant son retour, on le rejoindra dans ce qu'on appelle dans les cieux, mais une fois que le jugement sera passé, après son retour, là, il y aura une nouvelle terre et l'éternité, on la passera en fait sur cette nouvelle terre, aux côtés de Dieu. Je précise juste ça parce que des fois on a l'impression que l'éternité ça se passera dans un lieu blanc avec rien du tout et puis Dieu. Alors ce serait déjà incroyable en soi d'avoir le privilège d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, mais voilà, ce sera sur une nouvelle terre avec de nouveaux cieux. Et donc en fait, une caractéristique de cette personne, c'est qu'elle a oublié jusqu'au but ultime du sacrifice de Jésus qui est la purification de ses péchés. Maintenant on arrive aux fruits. Les fruits de mettre en pratique ces qualités, de fournir tous nos efforts pour les développer en nous. Premièrement, le verset 8. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruits pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier fruit qui se trouve dans le verset 8, c'est lié à la connaissance. Le verset 2 affirme que la grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Le verset 3 nous dit que nous recevons tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de Jésus. Le verset 8, lui, affirme que nous avons à grandir dans cette connaissance de Christ. Dans ces trois passages, la connaissance fait référence à cette connaissance personnelle et intime de Dieu. Ailleurs, la Bible utilise ce terme pour les relations intimes dans le cadre du mariage. Il s'agit de la manière la plus intime dont nous pouvons connaître quelqu'un. Le verset 8 implique donc que nous pouvons grandir dans cette connaissance et que ce sera là un fruit que nous récolterons en multipliant ces qualités dans nos vies. Voilà une grande motivation à faire tous nos efforts puisque le fruit est que nous grandirons en intimité avec le Dieu créateur qui nous sauve. Et à présent, les versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au début du verset 10, qui vient juste après celui de la mise en garde, Pierre dit « C'est pourquoi efforcez-vous d'autant plus. » Pierre s'appuie sur le danger d'être un aveugle, une personne qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, pour réveiller en nous l'importance de développer ses qualités, ses vertus. Rappelons-nous encore d'une chose que j'ai dit au début, c'est que Pierre a en vue dans cette lettre notre santé spirituelle en vue de notre persévérance jusqu'à son terme. Puis donc, dans la suite de ce verset, il nous informe encore d'un autre fruit, une autre récompense, affermir notre vocation et notre élection. Mais alors là, ça pose une question. Est-ce qu'il manque quelque chose à notre vocation et notre élection? Non. Elle vient de Dieu, elle dépend de Dieu et elle repose entièrement sur lui. En fait, c'est dans notre vie que nous voyons cette vocation s'affermir. Ces fruits viennent confirmer en nous l'œuvre du Saint-Esprit et nous rassurent quant à notre vocation et à notre élection. C'est dans ce sens-là. Il y a ici la notion de rendre sûr, rendre certain. Nous croîtrons ainsi dans le Seigneur et dans la confiance d'avoir été appelés et d'être dans cette vocation de laquelle rien ne peut nous retirer. En d'autres termes, pour des gens qui traversent parfois des phases de doute en lien avec le salut, comme ça peut être mon cas, eh bien grandir dans ces choses va nous apporter un réconfort, va nous permettre d'être affermis, de pouvoir dire « mais oui, je vois ces qualités grandir en moi, elles confirment ma vocation et mon élection. » Puis ayant persévéré jusqu'au dernier jour, nous pourrons constater que ce n'est pas de manière avare que Jésus a pourvu à notre salut, mais de la manière large et généreuse, en voyant combien grande nous sera ouverte l'entrée dans le royaume éternel. Il n'y aura pas besoin de se faire petit pour essayer de passer. Non, à cause de la justice parfaite de Christ, les portes nous seront grandes ouvertes. Voici un passage propre à encourager un chrétien lassé par les luttes sur cette terre. Persévère, cher frère. Persévère, chère sœur. Les portes du royaume céleste seront grandes ouvertes. Tu verras la générosité de Christ dans son salut, dans les récompenses pour ta vie de fidélité sur cette terre. Comme le dit John MacArthur, le chrétien qui recherche les vertus précitées au verset 5 à 7 jouira non seulement de l'assurance dans le présent, mais d'une riche récompense dans la vie future. Voilà aussi la différence entre l'aveugle qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et le chrétien qui est capable de regarder au loin les réalités éternelles et de considérer qu'elles valent la peine de faire tous ses efforts. Et il est intéressant de voir encore la façon dont Pierre termine le verset 11, et ce sera notre conclusion. La fin du verset 11 dit « C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Seigneur et Sauveur. Voilà qui résume bien tout ce qu'on vient de voir dans les versets précédents. Jésus comme Sauveur ayant tout donné par grâce. Jésus comme Seigneur qui nous commande les impératifs, à qui nous devons maintenant une vie d'obéissance. En fait, cette expression « Seigneur et Sauveur » ne revient qu'à 4 reprises dans tout le Nouveau Testament et elle se retrouve toute dans la deuxième épître de Pierre. Et c'est certainement pas sans raison que Pierre utilise cette expression pour la première fois dans cette lettre à cet endroit, cette lettre qui a pour but de garder le chrétien en bonne santé spirituelle pour notre persévérance jusqu'au terme. Jésus doit être notre Seigneur et notre Sauveur. S'il n'est pas les deux, il n'est rien pour nous. Nous avons à chercher cet équilibre entre les indicatifs et les impératifs. Nous appuyer entièrement sur Dieu, lui rendre toute la gloire, car il a tout accompli pour nous, et il pourvoit à tout ce que nous avons besoin. Et de l'autre côté, en nous reposant sur ces choses, faire tous nos efforts en vue de gagner le ciel, non pas gagner dans le sens qu'on aurait quelque chose à ajouter pour être sauvé, mais dans le sens de conforter cet appel qu'on a reçu. Et je vais prier. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce salut que tu nous donnes en Christ. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli pour que nous puissions être réconciliés avec toi, pleinement rétablis, dans la vie éternelle auprès de toi, et tu pourvois à tout ce qui est nécessaire pour notre vie de piété ici. Et Seigneur, dans notre nature déchue, on peut avoir tendance à basculer toujours d'un côté ou de l'autre, à nous réjouir du salut par grâce et à penser que on n'a plus rien à faire, on peut vivre comme on veut, ou à l'inverse, penser que ce salut, on doit le gagner, on doit le mériter. Et ma prière, Seigneur, à la fin de cette prédication, c'est que tu nous accordes la grâce de vivre cet équilibre, de nous reposer toujours entièrement en toi, de reconnaître que toute la gloire te revient pour notre salut et pour tous les fruits qui se multiplient dans nos vies, tout en reconnaissant que tu nous demandes d'y participer activement. Seigneur, sois béni, sois glorifié dans nos vies et veuille nous amener toujours plus à la ressemblance de Christ dans ta grâce. Et au nom de Jésus. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.